Quatrième temps d'une semaine de rediffusion de documentaires de la Fabrique de l'Histoire, des documentaires que nous avons proposés pendant toute cette année 2015. Et aujourd'hui, eh bien, c'est de musique, de musiciens, de musique à danser, de musique sur laquelle on chante, dont il sera question. Nous sommes le 31 décembre et peut-être ce soir, eh bien certains et certaines d'entre vous danseront-ils ou danseront-elles sur du Claude François, du Mike Brandt ou encore du Dalida. Eh bien sachez que derrière ces chanteurs et ces chanteuses des années 70 et des années 80, il y avait des musiciens. Et c'est ces musiciens qui sont au cœur du documentaire que Philippe Gimplowitz et Séverine Cassard vous proposent aujourd'hui. 3-4, c'est parti, requins de studio en variété qui sont et qui étaient ces requins de studio qui ont été au cœur de la musique de variété justement française dans les années 70 et 80. C'est ce que raconte ce documentaire avec Francis Daris-Curen, Denis Lable, Teddy Lastry, Slim Pézin, Jean-Claude Petit et Tony Russo. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire aujourd'hui.
Dans mon caractère, j'aime bien être dans l'ombre. J'ai joué, on m'a dit, ah ben, c'est bien, tout ça. Ben. Moi, j'étais content de faire ce que je faisais parce que je m'ennuyais pas. J'ai horreur de m'ennuyer.
Tony Russo.
Le jazz, je pense que je savais le faire, mais faire que ça, j'aurais pas pu. Ça m'est arrivé de jouer dans des clubs de jazz et tout, arriver à 2h du matin. Pas que j'avais plus envie de jouer, mais j'avais plus la même motivation. Tandis que chaque fois que j'allais dans un studio, on savait jamais ce qu'on avait à jouer. Quand on mettait le pied dans un studio d'enregistrement, il pouvait y avoir des trucs difficiles. Et quand on sortait et qu'on arrivait à le faire, moi j'étais content.
Le studio, ça coûte tellement cher. On lit la partition à l'envers, à l'endroit, à droite, à gauche. Voilà.
Francis Daris-Curen.
Claude François nous admirait pour ça, parce qu'il répétait pendant des heures avec son orchestre de scène, et nous, on l'épatait, parce qu'on prenait la partition, on dépliait, on jouait. Un quart d'heure après, la chanson était en boîte. Donc, il avait du respect pour nous, parce que ça, ça l'épatait. Mais je lui disais, moi, c'est un métier. On fait un métier.
Tony Russo, trompette. Francis Daris-Curen, guitare basse. Jamais vu sur le devant de la scène, mais mille fois entendu derrière des chanteurs, des musiques de films, de pubs ou de comédies musicales. Des musiciens de studio donc, comme on disait. Admirés, enviés, mais parfois aussi dépréciés. Des mercenaires, disait-on, des requins. Il faut dire que lorsqu'ils entraient dans un studio d'enregistrement, ces requins savaient ce qu'ils avaient à faire. Lire et interpréter la musique, et quel que soit le type de musique. Et cela, ils le faisaient très vite, et ils le faisaient mieux que bien. Leurs belles années se déroulèrent entre le boom du micro-sillon et la crise du CD, au temps où maisons de disques et producteurs dépensaient sans compter. L'Internet, les machines à faire des sons, l'externalisation des orchestres à l'étranger, les mini et home studios des particuliers y mirent fin. La musique de variété de ces années, c'était eux et quelques autres. Tous avaient la compétence, certains avaient la grâce. 3, 4, c'est parti. Requins de studio en variété, un documentaire de Philippe Gimplowitz et Séverine Cassard. Jean-Claude Petit, Cyrano de Bergerac, quelle année ?
1990.
Donc cette musique, c'est vous qui l'avez composée ?
Oui, et dirigée, bien entendu.
Avec l'orchestre ?
À 90% l'orchestre de l'opéra. Et Thierry Kans à la trompette,
entendu. Oui, de Dijon.
Oui, de Dijon, vous le connaissez bien.
Cet orchestre, c'est l'orchestre de l'opéra, c'est un orchestre qui faisait souvent des séances de musique de film.
Bah, les trois quarts étaient des requins, hein, comme on l'appelait dans ce temps-là. C'est-à-dire qu'ils faisaient tous les disques de variété sur lesquels il y avait souvent des cordes, souvent des violons, hein, puis des cuivres, même quelquefois. Même Thierry Kahn, c'était aussi une forme de requin, mais pour le style un peu classique, disons. Pour les variétés, c'était plutôt d'autres. Là.
Par exemple,
Rousseau.
Tony Rousseau, oui, trompettiste.
Tony Rousseau.
Les gens, quand ils écoutent un disque, peut-être qu'ils pensent qu'il y a des musiciens derrière, mais en fait, ils y pensent même pas, quoi, qu'il y a tout un orchestre qui joue derrière, qu'on fait les enregistrements.
Tony Rousseau.
C'est un métier un peu irréel. On peut pas, aussi, on peut raconter ça à des musiciens, mais c'était un métier un peu, je pense que c'est le métier d'une époque. Parce qu'à l'époque, il y avait des normes. Il y avait des orchestrateurs qui prenaient des musiciens, qui faisaient bien l'affaire.
Il y avait vraiment ces requins qui faisaient toutes les séances. Mais à cette époque, je parle pour moi de 66 à 82.
Jean-Claude Petit.
On enregistrait beaucoup de titres dans une séance de 3 heures, vous savez. On était capable d'enregistrer 2, 3 titres et même au tout début, jusque 4 titres. Et donc, il fallait faire très vite. Donc avoir du métier, comme on dit, et pour avoir du métier, faut avoir fait beaucoup de séances et avoir une connaissance d'un peu tous les styles de musique, du rock'n'roll à la valse musette.
Le requin type, alors vous allez dire c'est pas moi, comment vous le définiriez?
Alors, le requin type.
Slim Pesin.
Pour moi c'est celui qui a le carnet à portée de main, avec le crayon, et dès qu'il y a une pause pendant la séance, il se jette sur le téléphone. Il double tout le monde et il occupe le téléphone pendant les 20 minutes de la pause. Voilà. Pour moi, c'est ça le requin type. Non, mais ça m'a toujours fait rire de voir certains personnages de notre métier qui sont inquiets s'ils agissent pas de cette manière, c'est-à-dire d'être toujours sur le qui-vive.
Mais il faut expliquer comment se passait la séance. C'était que la séance durait 3 heures.
Avec une pause de 20 minutes.
Et à l'époque, il n'y avait pas de portable, donc il y avait un téléphone dans la cabine.
Dans la cabine, non, dans le couloir qui menait à la cabine. Alors bien entendu, c'était toujours les mêmes. Et c'est ça, pour moi, c'est ça l'image du requin. L'image du requin, c'est celui qui est toujours en affaire, quoi. Pendant la musique, il joue de la musique et il est en train de réfléchir à qui il va appeler pour essayer d'accrocher une affaire. Voilà, c'est ça le requin.
C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle requin. Oui.
Denis Lable, le requin pour vous.
Le requin tigre, vous voulez dire. Bah, le vrai requin, il représente à mes yeux le personnage pas spécialement préoccupé par des idées créatives.
Pas des idées créatives, mais il n'empêche que ce type de personnage était excellent musicien.
Moi, j'ai eu un bonheur énorme à faire des séances.
Teddy Lasry.
Où on me demandait de venir avec mon sac de flûte, clarinette, sax, même percussion. Enfin, c'était ma façon à moi d'être un requin. C'était pas la façon très orthodoxe. Mais c'est vrai que les requins, c'était formidable. Moi, j'aurais aimé être ce requin-là. Celui qu'on appelle pour mettre la petite touche.
Teddy Lasry, flûte, Don Juan 73, film de Roger Vadim, musique, Michel Magne.
Il y a des grands solistes qui vont accompagner, enfin, les Stan Getz l'a fait, enfin, je veux dire, jouer derrière des gens. On peut avoir cette attitude-là. Un grand soliste peut avoir cette. C'est très agréable d'être appelé pour une chose spécifique.
Tout est le jazz finalement pour moi. Même la variété, quand on joue des riffs, que ce soit derrière Fugain, que ce soit derrière Sardou, que ce soit derrière Hallyday, on les joue comme si on jouait du jazz, quoi, en section. Et alors ça aide quand on a écouté beaucoup, beaucoup de jazz.
Et quand on a le sens du tempo aussi.
Ah ben ça, il faut avoir le sens du tempo. On ne peut pas se permettre de jouer à côté des sections rythmiques qui sont déjà enregistrées. C'est-à-dire qu'il faut jouer au couteau, on appelle ça.
Martial Solal, de Decaband, It Don't Mean a Thing, Tony Rousseau et Roger Guérin, trompette, Jean-Louis Chotan, saxophone, Denis Leloup, trombone.
joue à un niveau professionnel, quoi. Vous entendez pas un qui joue à côté, vous voyez ? J'ai eu mon premier prix de Nice, et après j'ai fait une année de plus, et ils m'ont donné le prix de...
Le prix d'excellence. Le prix des prix.
Voilà.
Et donc tout ça, ça vous amène à Boulogne, et ensuite au Conservatoire supérieur de Paris.
Mais je ne suis pas resté longtemps, je suis resté qu'un an. Quand je suis sorti du conservatoire, je suis resté quand même, on peut dire, 2 ans à végéter un peu. Je jouais avec des petits groupes. Je jouais avec un groupe de rhythm and blues, ce qui me permettait un peu de survivre.
Et le métier proprement dit, c'est-à-dire que le moment où vous entrez dans des milieux professionnels, c'est à quel moment ?
Il y avait Pierre Dutour, c'est lui qui m'a un peu mis le pied à l'étrier parce qu'il était déjà ici. Il m'avait remarqué comme ça, il m'a dit « je vais essayer de te faire faire des séances d'enregistrement, tout ça, bon ». Et puis après, il me dit « est-ce que tu as des copains, des amis qui jouent à ton niveau ?» Voilà, puis il y en avait quelques-uns. Et puis on s'est réunis et on a formé une équipe, ce qu'on appelle. On était 4 trompettes, puis on faisait travailler d'autres gens quand on avait besoin. Parce qu'après, ça marchait comme ça, quoi. Plus on nous appelait, plus on faisait de séances.
Je suis tombé guitariste.
Slim Pesin.
Ça me paraissait facile au départ. J'ai passé des nuits et des nuits à travailler, à écouter les disques, à reproduire les disques. À l'époque, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de partition, rien du tout. En tout ce qui concerne la musique moderne, il n'y avait rien. Je n'ai pas trouvé de professeur, j'ai acheté des bouquins. Les bouquins d'harmonie, les Coquelins, tout ça. Et puis j'ai bossé tout seul, comme un grand. C'est très simple, la musique. Ouais. Mais il faut être courageux.
Slim Pesin, 4G, avec André Ceccarelli, batterie.
J'ai passé des nuits et des nuits à écouter les disques pour savoir mais quel genre de guitare, quelle section de cordes, j'allais jusque-là. Comment que ça se fait qu'il arrive à relever aussi facilement une note comme ça, le style ce qu'on appelait Nashville à l'époque.
Ce qui fait que quand on arrive au milieu des années 60, donc 63-64, ouais. Et que les arrangeurs ont besoin de guitaristes qui sonnent comme,
moderne,
comme,
on va
comme
dire.
Moderne, moderne, comme chez ouais. Les Américains, il y a vous.
Alors, ce qui est particulier, c'est que j'ai appris à lire sur le tas.
En studio, vous voulez dire ?
En studio. Alors que tous les gens qui étaient autour de moi, c'était tous des premiers prix de conservatoire. Il y avait Tony Russo, il y avait Charles Aurieux, trombone.
Tromboniste, oui. Daris Curen.
Oui, Daris, mais moi, mon époque, quand j'ai démarré, c'était Léo Petit et Pierre Michelot.
Vous savez, c'est des gens qui venaient du jazz, alors que vous veniez
oui.
Du rock. Hein,
oui, ah, mais moi, je venais, comme je dis, du néant. J'étais bon... dans le rhythm and blues et le rock, mais j'avais un pouvoir de concentration et de mémorisation presque instantané.
Quand votre père, professeur de violon à Bayonne,
Francis Daris Curen,
vous met un violon un quart, c'est-à-dire un tout petit violon à 4 ans sous le menton, et qu'après vous continuez au conservatoire, la clé de fa, la clé d'ut, la clé de sol, les dictées musicales, le déchiffrage, vous arrivez à 14-15 ans, vous devenez un peu un érudit de la musique quand même, parce que le conservatoire, ça a du bon, hein. Quand j'ai eu 16 ans, mon père m'a dit « Si tu as ton prix d'excellence cette année, je te paye la plus belle guitare Gibson qui existe sur le marché. » Et j'ai eu mon prix d'excellence.
Comment on fait pour savoir très bien jouer du violon et savoir très bien jouer de la guitare ?
Mais c'est-à-dire que quand j'ai eu cette première Gibson, elle m'a donné envie de jouer nuit et jour. Pour jouer des choses malgré tout assez simples, c'est relativement facile. Par rapport au violon, je veux dire. C'est après que ça devient plus difficile. Alors, vous arrivez à Paris avec une guitare entre les mains et vous êtes lecteur. Là, je suis parti en tournée beaucoup. Paul Naref, Johnny, Richard Anthony, François Hardy, France Gall, bon. Et puis...
Là, vous êtes à la guitare électrique.
Oui, oui. Et après, ça a été à la basse parce qu'on s'est aperçu que des guitaristes, il y en avait pas mal qui jouaient bien. Et puis les bassistes... Et ça a gazé tout de suite parce que j'avais des bases du conservatoire déjà de contrebasse.
Moi, je suis pas né à Paris.
Vous êtes bourguignon.
Je suis bourguignon... Auxerrois, pour ne pas le dire. J'ai été bercé dans un milieu bourgeois, artistique, provincial, avec une éducation du côté de ma mère, assez catholique. Son père était musicien, organiste, chef de chapelle.
Denis Lable.
Il y avait aussi une autre partie, j'avais un oncle dessinateur, sculpteur. C'est sûr que cette ambiance, on va dire entre guillemets, l'art pour l'art, c'est vrai que j'ai toujours eu un petit truc comme ça qui traîne. J'avais manifesté
l'art de dessiner, de peindre, avant même de faire de la musique.
J'étais étudiant à Paris.
À l'école Boulle.
À l'école Boulle. Et en même temps, j'avais formé un petit groupe de rock qui marchait bien. L'année qui suit, il y a les événements de 68. Et là, il y a eu quelques années d'errance, mais je me suis retrouvé à accompagner Nicoletta. Mais à l'époque, elle avait un tube qui s'appelait Il est mort le soleil. Donc, tant qu'à faire, c'était un bon moment. J'accompagnais aussi Eric Chardin, à l'époque où il chantait Le Monde est gris, le monde est... enfin bref. Et puis un jour, je rencontre un musicien qui était derrière Nicoletta et qui me dit « Ça serait bien si tu pouvais venir accompagner Julien Clerc, on aurait besoin d'un guitariste. » Ça, c'était en mars 71, et pour moi, ça, c'est le vrai démarrage. J'étais rentré dans le métier.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Magma, Fête foraine, Teddy Lasry, Christian Vander.
Teddy Lasry, la musique commence très tôt pour vous, avec un père musicien, je crois.
Mon père, c'est Jacques Lasry, qui est pianiste, compositeur, et qui a créé à partir de 1954 les structures sonores Lasry Bachet. Je suis né musicien. Je ne me suis jamais posé la question. C'est déjà un truc assez étrange, puisque l'image du père était très très forte, quoi. Et c'est vrai que quand j'enregistrais, il y avait toujours le souci de gagner ma vie, de gagner le mieux possible, mais en même temps, toujours, toujours, le plus important, c'était d'être original. Une espèce d'obsession qui m'a été inculquée, pas inculpée, par mon père.
Et Magma, ça arrive comment alors ?
Chez Ariane Nouchkine, je partageais sa maison à Chatou. J'avais mis mon piano là, c'était plus simple qu'à Paris. Et puis on répétait, j'avais un petit quartet de jazz avec des copains. Et le contrebassiste connaissait François Cahen, qui commençait une histoire avec Christian Vander, quoi. Et il cherchait des musiciens. On a répété 6 mois et on a enregistré. Quand on a des problèmes de vue, il faut s'organiser autrement. Donc c'est pour ça que j'ai été vers un studio personnel. Je pouvais expérimenter, prendre ma clarinette ou clarinette basse ou la batterie, n'importe quoi, et essayer des choses.
Ça correspondait à un grand moment technologique, le moment où les machines sont arrivées, le moment aussi où un marché s'est développé.
Oui.
Et donc vous étiez le l'homme parfait au moment parfait.
Voilà.
De cette manière.
C'est-à-dire que mon rêve, c'était de musicien de séance, mais le rêve pour moi, ça a été de pouvoir faire ça à la maison. La publicité avait des budgets colossaux. On était payé absolument ce qu'on voulait. Les droits d'auteur étaient très importants. Et moi, j'étais un studio à la maison. J'en ai fait beaucoup à la maison au début. J'en ai fait aussi en studio. Mais je gagnais tellement d'argent avec les droits d'auteur que j'ai même pas pensé que je pouvais leur demander un cachet de compositeur. Et à un moment donné, j'ai su quand même que mes confrères, ils pouvaient prendre 20 000, 30 000, 40 000 francs, ce qui était beaucoup pour l'époque.
La chance de cette époque, c'est que les disques, ça marchait fort. Hein, vraiment, ça se vendait bien et ça rapportait beaucoup d'argent aux maisons de disques.
Jean-Claude Petit.
Donc, on avait un crédit, quand on devenait à la mode, presque infini. Et j'ai commencé avec une douzaine de musiciens. Et puis très vite, je suis passé à 35, à 40. Puis après, j'ai agrandi les cordes, etc. Parce que on estimait que ça allait créer le succès.
Capri, c'est fini, ton don, ton don, ton don. Il y a eu une époque de ça.
Et là, c'était Darris Curren, c'était vous. Là.
Oui, oui, tout ça.
Bon, vous avez tout fait, vous avez tout raflé, vous avez tout pris.
Ouais, ouais. Il fut une époque qui était dithyrambique.
Dithyrambique, ça veut dire ?
Ça veut dire que vous aviez une séance le matin pour Aznavour de 9h à midi, feuille de paye Barclay. 13h30, 16h30, vous étiez avec Sacha Distel, feuille de paye Pathé Marconi. Vous faisiez le zizi à 17h avec Pierre Perret, feuille de paye de chez Vogue.
Est-ce que c'est vous le zizi ?
Oui.
Mais je vous avais reconnu.
Oh là là, si je vous donne la liste, on y est demain. Et puis le soir, on faisait l'Olympia à Cocatrix, nouvelle feuille de paye. Et puis la voiture de Côte-François venait nous chercher à minuit pour enregistrer jusqu'à 5h du matin. C'était dithyrambique, j'ai bien choisi le mot.
On commençait à l'époque, on commençait à 9h. On faisait 9h midi, 13h30, 16h30, 17h, 20h. Et des fois, 21h, 24h.
Slim Pesin.
Et on changeait de studio. C'était la course un petit peu.
Et puis vous avez plusieurs guitares, vous arrivez avec l'électrique, avec l'acoustique.
J'avais toujours 4 guitares. J'avais la guitare électrique, la guitare sèche, c'est-à-dire corde acier, la guitare nylon, classique, et la 12 cordes, et l'ampli. Moi, à partir de 72, comme on me faisait faire 2-3 guitares par titre, avant, on était 3 guitaristes quand j'ai commencé le métier. Après, on était 2, après, j'étais tout seul. J'ai dit, bon, vu que c'est comme ça, vous ne voulez pas prendre 2 guitaristes, je vais passer au forfait. Déjà, là-bas, j'avais 100%, le double du tarif syndical. Là, je suis passé à 150%, et puis après, ça n'arrêtait plus. Là, j'ai pris un forfait qui était 3 fois le tarif syndical, 4 fois, je crois. Puis je me suis aperçu, à partir de 77, quand j'ai commencé à aller travailler en Angleterre, je me suis aperçu que les Anglais, ils touchaient plus que nous. Alors, donc, on était loin du compte. Parce qu'eux, ils avaient trouvé une combine. Je les voyais toujours avec des pédales, les guitaristes. Ils avaient 10 pédales devant eux. Je dis, merde. Moi, j'arrivais, j'avais 2 pédales, c'est tout. Une wah-wah, une phasing. Puis un jour, je dis, mais pourquoi t'as toujours tes 10 pédales, là? Tu t'emmerdes à brancher ça. Il me fait, ah, c'est parce que quand je facture... J'ai 10 livres par pédale en plus. J'ai dit, oh putain. Et quand nous, on était à 1500 francs, eux, ils étaient à 1600. Plus les pédales derrière. Donc, je ne joue que lorsqu'il y a le sonnant et trébuchant, pour être vulgaire. Bon, ça m'arrive de jouer pour les copains et d'aller même faire des concerts avec des copains de rhythm and blues et tout. Pour la joie de jouer, être ensemble.
C'est important l'argent quand on est musicien, parce que c'est pas
ça. Ben, c'est important, on peut pas jouer gratuitement, je veux dire, la plupart des gens qui jouent quand même, ils ont fait des études de musique, bon, ils ont fait des, on se fait payer à notre juste valeur, quoi.
Tony Russo.
Les amateurs, ils font ça pour leur plaisir. Nous aussi, on fait ça pour notre plaisir, mais c'est notre métier. On est professionnel. On peut pas se permettre de, voilà. Ou alors, pour des œuvres ou des trucs comme ça. Par exemple, moi, j'ai fait un disque gratuit. Ils nous ont demandé pour faire le truc de, quand il y a eu le problème de l'Arménie, là, avec Aznavour, où il a réuni tous les chanteurs, y compris tout l'orchestre. On était 60 dans l'orchestre. Et un violoniste m'a appelé, il me dit, bon, écoute, on va faire le truc pour Aznavour. Tu veux le faire, mais ça sera pas payé. J'ai dit, bon, mais si c'est pour la bonne cause, je veux bien. À condition qu'on sache où l'argent, si c'est pour la bonne cause, quoi. Voilà. Et donc, on a fait ça, ça, c'est exceptionnel.
Les requins, il y en avait dans le monde entier. Je vous ai dit, j'allais en Angleterre enregistrer, mais j'ai enregistré en Allemagne, j'ai enregistré en Italie, et c'était des requins en face pareil, hein, exactement. D'ailleurs, c'est assez curieux, mais il y avait ça aussi aux États-Unis. Et d'ailleurs, il y a des films comme ça qui sont assez formidables. On voit les requins, les chanteuses et choristes, par exemple. Ils ont tous les mêmes tics, les mêmes physiques, les mêmes habitudes, une culture identique à travers le monde. Parce que finalement, cette musique de variété, c'était une musique qui avait inondé le monde entier, qui a encore inondé le monde entier, et les chansons. Et donc, il y a comme ça une unité des manières de travailler. On a tous inventé un métier qui venait quand même largement des États-Unis et de l'Angleterre. C'est l'industrie qui nous dicte des manières de travailler.
Mais c'est une industrie particulière tout de même, parce que c'est une industrie faite par des artistes, avec un soin infini et une qualité d'artisanat absolument extraordinaire.
Mais oui, vous avez raison. D'ailleurs, nous n'avions pas, les musiciens, une estime très très grande des disques que nous faisions. Mais nous faisions tout pour les faire le mieux possible. Et finalement, il y avait quand même une certaine invention dans tout cela.
Oui, moi j'essayais d'être toujours le mieux, quoi.
Denis Lable.
Après, si je me retrouvais dans une séance où la musique était, on va dire, entre guillemets, à chier, l'idée était quand même d'être toujours au mieux, tenter de suggérer peut-être qu'on pourrait faire... Mais l'idée d'escroquer, entre guillemets, je pense pas que j'ai eu ce réflexe-là. Faire du studio sans avoir l'idée derrière la tête de vouloir faire quelque chose de créatif pour soi qui me concerne, ça m'a toujours... Ça m'a toujours suivi, ça. On entend bien la guitare, et d'ailleurs, je me demande comment j'ai fait cette intro, parce que j'ai l'impression que j'aurais pu la faire.
Je voudrais m'envoler sur le dos d'une abeille. Entre les barreaux.
L'idée, c'est ça quand même, avoir un nom associé à un style de jeu.
M'envoler, c'est ça, sur le dos d'une abeille.
magique, ça.
Je voudrais m'accrocher à un rayon du soleil, grimper, grimper, grimper tout en haut. Salut gardien, excuse-moi, je t'enverrai une bonne bouteille. 25 piges, dont 5 au cachot.
Le rythmicien, il pose le morceau, c'est-à-dire c'est le maçon. Donc il y a une notion de responsabilité. Le morceau, il aura le son de la rythmique. Et surtout qu'à partir des années 70-80, les rythmiques, elles n'étaient pas écrites.
Des plans, des choses, c'était un travail de recherche.
Tu me tiens serré entre tes murs, tellement tu m'aimes. Ça fait un bail que tu dois me trouver beau. 25 piges, dont 5 au cachot.
Si on me dit, ah, mais je sais que c'est toi qui joues, je reconnais ton style, on peut pas me faire plus plaisir en fait.
Toutes ces rythmiques là, des années 70, 80, 90, elles ont fait fonctionner des artistes. Pierre-Alain Dahan, le batteur, et pourtant, Dieu sait s'il y en a des batteurs en France. Voilà, et vous avez tout d'un coup un batteur qui a... Enfin, il y en a plein de bons, quoi. Mais celui-là, c'est merveilleux, quoi. C'est un son, c'est une épaisseur, une générosité au niveau du jeu. Enfin, c'est formidable, quoi.
Les rythmiques, guitare, basse, batterie, on n'est pas obligé d'être un super lecteur. C'est pas la même chose qu'un violoniste, que des gens qui sont en section de cuivre, c'est différent.
On était 4 trompettes, 3-4 trombones, et puis il y avait quelques saxophonistes, voilà. Et on travaillait à peu près comme ça, toujours les mêmes équipes, c'est-à-dire quand on nous appelait pour des séances, on appelait les gens avec qui on travaillait. Et la séance commençait à 9h. Puis des fois, on n'avait pas toujours fini, donc on faisait un quart d'heure en plus. Et après, on partait, et des fois, on ne mangeait même pas. Et puis, il fallait qu'on aille, Marconi, sur les bords de Seine, vers Boulogne, là, Biancourt, là. Et après, si on prenait du retard dans la séance de 17h, le soir, on travaillait à l'Olympia. Alors, on arrivait juste pour attaquer. C'était le stress. Hein. Après, on s'est dit, bon, on a acheté des motos. Et là, ça allait, on s'en sortait mieux, quoi.
L'orchestrateur, c'est un musicien qu'on respecte énormément quand on est instrumentiste.
Oui, parce que il transformait tout, même les harmonies, les accords, tout ça. Quand vous écoutez le truc fini, là, vous vous dites, ah, la chanson, c'est pas mal, pas mal. Peut-être que si vous écoutez la chanson sans rien comme ça, telle qu'elle a été livrée, c'est peut-être pas la même chose.
Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de faïence, je sais sa défaillance.
Jean-Claude Petit, c'est un des meilleurs orchestrateurs. Il a fait des orchestrations sublimes.
Fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle.
Quand je réécoute des fois, maintenant, comme ça, je me dis, voilà. Quand même, c'était. Puis les cordes et tout ça, il faut savoir écrire les cordes.
Il faut le croire.
Si vous n'avez pas un peu appris, lui, il a fait les classes, plus le talent qu'il a, Petit. Mais bon, il a fait quand même le Conservatoire de Paris, les classes d'écriture, hein, j'imagine. Donc c'est des gens, c'est pas des. Ouais, c'est quand même des gens compétents. Ils connaissent vraiment bien, quoi.
Et d'être apprécié d'eux, c'est ça, en fait, le
Ah ben oui, non, nous, on était contents de travailler avec eux, de s'accrocher. Bon, après, c'était... Il fallait qu'on fasse le maximum pour que ce soit bien.
Jean-Claude Petit, avec toute l'équipe qu'il avait, ils ont créé un son, ils ont créé, ça a eu un succès quand même énorme. Cette idée d'avoir une équipe comme ça, toujours les mêmes qui jouent, après ça développe les réflexes, ça développe un son, ça développe une façon de jouer, un style. C'est arrivé, oui, dans les années 70.
Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi, le silence se fait.
J'avais écrit déjà les disques de Franck Alamo, de Michel Sardou, les tout premiers disques, des disques comme ça qui avaient eu tout de suite du succès. Donc je devenais rapidement un arrangeur à la mode, entre guillemets, et un directeur artistique m'a appelé. Je voudrais vous présenter un jeune homme qui est très étrange, très nouveau, avec des textes bizarres d'un type qui s'appelle Étienne Rodagile. Voilà, vous allez voir, et ça va vous intéresser. Bon, je l'ai reçu à la maison et j'ai trouvé ça effectivement nouveau. Il n'était pas du tout yéyé. Et ça m'a intéressé et j'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs à écrire les premiers arrangements. J'ai passé de nombreuses heures pour trouver une couleur musicale, une esthétique qui puisse le suivre longtemps.
Le travail de l'arrangeur à partir d'une chanson qu'on vous livre brute de décoffrage, ça consiste en quoi ? On change les harmonies
Ça consiste à entendre Julien Clerc pour lui jouer au piano et j'enregistre avec ma mini-cassette.
Donc c'était pas terrible, hein, si voilà. On peut le dire entre nous.
Et Julien a dit lui-même qu'il plante des clous, lui, sur le piano. Planter des clous, c'est écrire... C'est jouer comme ça. Et c'est toujours le même rythme comme ça. Donc ça a quand même une limite extraordinaire quand vous entendez les disques ensuite.
Donc vous écoutiez ces chansons et vous disiez, je vais magnifier tout ça, je vais rendre ça...
Ouais. Non, ce qui était formidable, et ce qui fait la différence avec l'époque maintenant, c'est que je ne disais rien. Je ne disais rien à ces chanteurs. J'étais un peu hautain, un peu prétentieux comme ça. C'est ce qu'ils me disent maintenant. Et puis je disais, bon, bah, laissez-moi tranquille pendant une semaine. Et après, j'arrivais aux séances d'enregistrement avec mes partitions, avec les musiciens, et 3-4, on jouait. Donc ils découvraient leurs chansons avec un habillage tout nouveau. Et ils n'avaient pas droit à la parole, les pauvres.
Et nous, à l'époque, on est dans la deuxième partie des années 70. Jamais on ne voyait un chanteur pour qui on enregistre, là, on ne savait même pas. On nous convoquait, oui.
Très souvent, le nombre de séances, vous ne savez pas pour qui vous enregistrez.
Ouais.
On te donne déjà ta partition, tu te mets dans ton coin, tu commences à regarder. Puis après, le problème, c'est de jouer la chose ensemble. Et puis, on n'a pas forcément l'idée de demander. Et on repart et on ne sait pas pour qui on a fait la séance. Quoi. Ce qui est quand même un peu absurde en soi. Quoi.
Mon premier enregistrement personnel à la clarinette, enfin c'était avec les structures sonores, mais je jouais de la clarinette depuis 6 mois.
Teddy Lasry.
Je n'avais pas encore pris de cours de clarinette, je faisais des doigtés tout à fait originaux et foireux. Néanmoins, mon père m'a fait jouer tout de suite un blues avec les structures sonores et on a fait un concert, ça a tellement marché qu'on a enregistré un disque. J'ai tellement aimé les studios quand j'étais enfant, pour plein de raisons. Ce qui était fascinant, c'est, alors je vais vous étonner, mais pour moi, d'abord, c'était l'odeur. Ces studios avaient une odeur absolument incomparable, un mélange d'ozone, parce qu'il faut vous dire que les magnétophones étaient quand même des meubles à cette époque-là. C'était pour un magnétophone mono, c'est-à-dire une seule piste. Ça pesait 100 kilos, un magnétophone, à cette époque-là. C'était Schlumberger ou Tolona, une marque française. Il y avait un mélange entre le frottement des... Comment ça s'appelle ? Les dynamos, enfin, je ne sais pas quoi, ce qui tourne, et l'huile des moteurs. Enfin, c'était une odeur qui me... Pour moi, je l'ai encore en mémoire, cette odeur. Il y avait ça. Il y avait la musique, bien sûr. À cette époque-là, souvent, la musique, on l'enregistrait avec un micro. Donc on disposait les musiciens en fonction du micro, ou le micro en fonction des musiciens, le chanteur très près du micro, et les instruments répartis comme ça. Et le son est très particulier.
dans le temps, remonte à la rivière pour frayer gaiement, pour frayer gaiement. Une bande de temps remonte à la rivière, s'en allait gaiement, fuyant la mer.
La ville on l'est,
s'en allait gaiement, fuyant la mer.
C'était des musiciens qui venaient quand même de la variété française de la chanson, et c'était même souvent des gens qui faisaient du bal le week-end. Je vous parle du début en 50, où il y avait ces gros studios, où on enregistrait de façon assez artisanale. Les musiciens ne venaient pas du jazz encore. Soit c'était des autodidactes, beaucoup dans les sax, les trompettes et tout ça. Les guitaristes étaient tous des autodidactes. Les cuivres d'ailleurs pouvaient venir, souvent c'est des gens qui avaient fait des fanfares jeunes, et puis voilà. Le conservatoire, c'était pour le piano, le violon et tout ça. Et c'est des gens qui ne connaissaient absolument pas ni le swing, ni les rythmes et tout ça. Donc on avait le choix soit entre des classiques qui ne connaissaient pas le jazz, soit entre des musiciens de bal qui n'étaient pas forcément des grands techniciens. Mais en fait, c'était des gens qui étaient très adroits, qui avaient appris sur le tas et qui avaient une souplesse incroyable, quoi. Mais ce n'étaient pas des perfectionnistes. En 60, arrive la stéréo qui commence à bouleverser le métier. Parce que la stéréo, ça veut dire qu'on met deux micros, et, comme dans le classique, et on a le son qui est l'équivalent de ce que vous entendez avec vos deux oreilles. Petit à petit, donc, il y a eu un affinement du son. On a rapproché les micros des musiciens. Et parallèlement à ça, le rock'n'roll avait commencé et tout ça, le niveau a commencé à monter pour les variétés.
Pratiquement tout le métier entendait ce que faisait le voisin dans un studio. C'est justement ce qui provoquait la sélection des musiciens qui faisaient les enregistrements.
Slim Pesin.
Et là c'était impitoyable. À commencer par les arrangeurs, si ça n'allait pas, ils vous rappelaient pas. Quand j'ai débuté en 64, il suffisait de ce qu'on appelle un pin, c'est-à-dire faire une fausse note, et on vous rappelait pas. C'était très, très dur. À l'époque, tout le monde était enregistré sur deux pistes. La piste centrale était réservée pour le soliste avec le chanteur, et les pistes gauche-droite, c'était tout l'orchestre, la balance était faite. C'est-à-dire que s'il y avait une fausse note, elle était sur la bande. C'est pour ça qu'on ne te rappelait pas. Parce qu'à l'époque, on faisait 4 titres en 3 heures. On faisait perdre du temps, de l'argent et tout. Avec Noël Deschamps, lorsqu'il enregistrait le chant de l'adaptation de Let Me Be Misunderstood, des Animals, il a chanté toute la nuit, le parolier... C'était les premiers textes qu'il faisait. Il avait un petit carnet, des mots qui sonnaient mal. Et il fallait recommencer. Et moi, je jouais la partie de 12 cordes. Ta, 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 ta. Et ben, j'ai joué toute la nuit parce que c'était sur la même piste. Et là, au petit matin, j'avais les doigts complètement sciés.
Je sais, j'ai mes jours de colère, mes heures de désespoir. Je sais qu'à ces moments-là, j'en veux au monde entier. Et je voudrais fuir même ton regard. Mais toi, tu m'en veux, tu ne comprends donc pas. J'ai peur, je n'ai à t'offrir que mon amour.
On arrive après ça, deux pistes, trois pistes. Alors trois pistes, après c'est encore un palier.
Teddy Lasserie.
Vous pouviez enregistrer d'abord l'orchestre sur vos deux pistes et faire venir ensuite le chanteur. Du coup, on allait prendre son temps pour enregistrer le chanteur. Bon, on allait mettre une journée, si on voulait. On pouvait avoir des chanteurs qui ne savaient pas chanter. Il n'y avait pas les moyens pour rectifier comme maintenant. Ensuite, le multipiste, c'est-à-dire on est passé très vite du 3 pistes aux 8 pistes et aux 16 pistes. Et quand on arrive aux 16 pistes, alors là, c'est plus le chanteur qui vient tout seul. On commence à séparer le groupe des musiciens. Donc, on commence à enregistrer la rythmique toute seule. Clavier, guitare, basse électrique et batterie. Et alors là, ça commence à devenir infernal, c'est-à-dire que sur la batterie, vous avez 6 micros, vous arrivez à 9 heures pour enregistrer, ça je parle à partir des années 70. De 9 heures à 10 heures, c'est le réglage de la batterie. La rythmique mettait une journée pour enregistrer un titre.
Alexandrie, Alexandra. Vous pouvez nous parler de la manière dont s'est passée cette séance ?
On m'a confié ça au dernier moment. Le vendredi, Claude m'a convoqué à son bureau, Claude François, oui, pour me dire, écoute, tu vas t'occuper des rythmiques. Il y a 5 titres, 5 bases rythmiques à faire. Et je savais qu'on allait enregistrer à Trident, à Londres. En une journée, j'ai écrit 5 bases rythmiques. Le dimanche, on est arrivé à 11h. On a fait les 5 bases en 5 heures.
Avec des musiciens anglais et vous à la guitare.
Oui, ça faisait 2 ans que je travaillais très souvent en Angleterre pour cette période qui débutait, la période disco. Et pratiquement tous les grands enregistrements disco se sont faits à Londres. J'avais même conseillé à Claude, il voulait faire des enregistrements style disco. Je lui avais conseillé de prendre les mêmes musiciens avec qui je jouais. Mo Foster à la basse, Peter Van Hook à la batterie, Ray Cooper aux percussions et Lance Dixon ce jour-là au piano.
Des requins anglais donc.
Oui, des
très bons.
Des très bons.
On allait à Londres enregistrer les rythmiques surtout et les chœurs souvent. C'était beaucoup
plus chic.
Snob, plus chic d'aller à Londres. Et puis il y avait des formidables musiciens qui faisaient la mode de l'époque. Alors on emmenait Slim dans un petit avion privé que pilotait de temps en temps lui-même Claude François. Et on faisait la fête tous les soirs là-bas au Traders Vix à Londres.
Et Slim Pesin, qu'est-ce qu'il ajoutait aux musiciens anglais ou était son rôle?
Il faisait des solos et puis il suivait l'enregistrement puis c'était un copain.
Slim Pesin, vous êtes musicien de séance, vous êtes au service d'eux et par ailleurs, vous montez un coup. Parlons de voyage, comment ça a commencé?
Ça a commencé, on était 3 copains, hein, Pierre-Alain Dahan, Marc Chantreau et moi. On se voyait tous les jours et à un moment, on s'est dit pourquoi on n'essayerait pas de faire un disque disco. Le disco, en vérité, c'était une mode créée par des musiciens. Il n'y avait pas spécialement de chanteurs ou de chanteuses. On les considérait un peu comme chanteurs d'orchestre, comme c'était à une certaine époque. Et on a monté ce groupe. On a utilisé des chanteuses anglaises pour être tout de suite exportées. Et je me suis aperçu qu'il y avait des rythmes différents dans chaque pays. On l'a développé avec comme base, bien entendu, le pied du disco. Mais au-dessus, ça bougeait, ça devenait d'un seul coup arabe, ça devenait cubain. Notre idée de point de départ, c'était ce voyage à travers le monde. Le premier disco, c'était Soul Makossa. J'ai joué dans Soul Makossa avec Menu Dibango. Et après, on a fait Santa Esmeralda en même temps que notre groupe. Et tout. Donc, on est à la base d'un mouvement.
Est-ce que ça partait d'une frustration à l'idée que le marché de la musique était un marché avec de l'argent qui circulait et que quand on était musicien de studio, on avait finalement des miettes du pactole? Est-ce que ça vous traversait l'esprit? J'imagine que oui, tout de même.
Bah oui, oui. Ce qu'on voulait, c'est surtout s'exporter, sortir du territoire. Et ça marchait à travers le monde. Alors donc, ça.
Il y a eu le résultat.
Bah, c'est simple, hein. Il y a la semaine, on va parler en milliards, la semaine où on a fait le premier album de voyage. Le dimanche, j'étais avec Claude François à Trident. Je suis rentré pour faire un 45 tours instrumental pour une production de Ringo Willy Cat, qui était numéro 1 en Espagne. Et le mardi, mercredi, jeudi, nous avons enregistré le premier album de voyage.
Ça se passe où le film? Mais il y a une partie qui se passe en Grèce. Bon, j'ai amené le bouzouki. Il y a une partie qui se passe à Napoli. Bon, eh ben, écoute, j'amène la mandoline. Il y a une partie qui se passe à Moscou. Bon, j'amène le balalaïka. Ouais, et tout ça, ça fait partie d'un métier.
Francis Daris-Curen.
C'était pas une question de difficulté de note, c'est une question de qualité de son, le son de l'instrument.
Et comment vous faisiez alors pour arriver à faire tout ça sans avoir des problèmes de cœur?
De cœur sentimental ou
pas
de cœur de santé?
Non, de problème cardiologique.
Oui, il fallait dormir dès qu'on pouvait. André Arpino,
oui.
Maurice Vander au piano et moi-même à la basse.
Danser dessus mes vers luisants comme un parquet de Versailles.
On a fait ça le matin au studio d'Avou et l'après-midi, les cordes qui étaient orchestrées par Jean-Claude Vanier.
La voix lactée, la voix clarté où les pas ne pèsent pas. Danser sur moi, danser sur moi.
On s'est mis d'accord en studio entre nous pour... Nous, Garou nous a dit, maintenant les enfants, je vous lâche la bride, vous faites ce que vous voulez, faites-moi autre chose. On n'a même pas fait de version de sécurité comme on fait toujours, parce qu'on a senti tous les quatre qu'il y avait un G dans cette version-là qu'on ne retrouverait plus, il y avait une spontanéité.
Étreignez-vous pour que vos cœurs s'encastrent.
On était en studio à 10h15 du matin. On a fait ce titre et à midi moins le quart, on buvait l'apéritif à la brasserie du coin.
Vous aviez signé la feuille rose juste avant.
Voilà, un bon requin que nous étions. Nous faisons partie d'une, pas d'une caste, c'est pas le moment exact, mais d'une race peut-être, de musiciens obscurs vis-à-vis du public.
Ça y est!
On a enregistré tout le monde ensemble. Quand on était, vous pensez bien, une soixantaine dans un studio, voire plus, il y a toujours un trombone qui la veille à bien manger chez Bocuse. Et il y a toujours un trompettiste qui raconte la dernière blague un peu salace. Et puis, enfin bon, on rigolait bien. Voilà. Après, ça s'est gâté un peu.
Danser sur moi le soir de mai.
C'est effectivement les cordes, les violons, les violoncelles qui ont supporté le plus mal l'arrivée soit des studios à l'étranger, soit des machines et des synthétiseurs. Le synthétiseur a fait du mal, ça a surtout été très impressionnant pour les batteries et les basses.
Vous étiez avec Claude François, vous étiez avec Pierre Perret, vous étiez avec Bruno Cocatrix, vous étiez avec Claude Nougaro et ça ne vous suffisait pas, il vous fallait la garde républicaine en plus.
On prenait la température vite, hein. Quand vous n'envoyez plus de remplaçants, ou très peu quand vous avez trois séances à la même heure, et puis que personnellement de 23 ou 24 séances par semaine, vous passez à 19, vous dites, ah tiens, et puis que ça perdure pendant 6 mois, bon, et puis arrivent les premiers Moog, c'est-à-dire les premiers synthétiseurs, des appareils, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, pour remplacer les cordes, pas bien d'ailleurs, les boîtes à rythme, et puis les basses un peu électroniques, et tout ça, je me suis dit... Dis donc, Daris, mais j'ai joué du violon, moi, dans mon jeune âge. J'ai repris ça très sérieusement. Le morceau imposé à la guerre républicaine, cette année-là, était la symphonie espagnole de Lalo, et ça me convenait très bien. La, la, mi, la, la, mi. Je sentais bien ce morceau. Il y avait 3 places, et il y avait 22 concurrents. J'arrivais premier, tant mieux. Maintenant, pour 1 place, il y a 300 concurrents. C'est plus pareil.
Vous avez senti le moment où le métier tel que vous le pratiquiez auparavant commençait à décliner?
Alors moi, j'ai senti ça au début des années 80.
Au début des années 80, ouais. C'est-à-dire que les machines allaient commencer à...
Voilà, à prendre beaucoup de place et prendre aussi beaucoup de budget. Il fallait absolument, pour faire moderne, utiliser des sampleurs. Et... Moi, j'étais beaucoup plus loin parce qu'à partir des années 90, j'étais plus vers le cinéma parce que je sentais que le disque, ça allait s'achever à un moment ou à un autre.
90, là, ça commençait à diminuer, quoi. Même les sections rythmiques, ils les faisaient au synthétiseur. Après, c'était les cordes.
D'une certaine manière, c'était le métier qui disparaissait, enfin, le métier tel que vous l'avez fait.
Moi, je me suis toujours dit, ça va pas durer. Tous les bons trucs, ça dure jamais. Et il y en a qui s'imaginaient, ouais, j'ai dit, non, vous allez voir, on a encore quelques trucs à faire, on nous appelle encore, mais peut-être que ça va pas durer. On me disait que j'étais défaitiste et tout. Mais c'est logique, en fait. Des fois, les trucs, ça dure pas toujours. On n'était pas fonctionnaire, hein. On était musicien intermittent au cachet. Voilà. Tous les jours, il fallait qu'on prouve qu'on pouvait encore jouer et qu'on faisait l'affaire. Tous les jours.
On peut comprendre qu'à partir d'un certain moment, le téléphone sonne moins. Par contre, ce que je dirais surtout, c'est que l'idée de jouer ensemble et en même temps, de façon plus ou moins inconsciente, s'évaluer et d'être vraiment faire tourner une rythmique avec le son. C'est ça, surtout, la grande perte. En ce sens, la musique est remplacée par les machines, certainement évoluée, mais je suis même peut-être plutôt content de ne pas être là-dedans. Tout le métier de studio qui pouvait se passer comme ça, c'est vraiment formidable, quoi.
Le métier que nous avons fait depuis 50 ans n'existe plus. il y a plus ce côté créatif qui dure pendant 3 minutes ou même 2 minutes 35. Ne reste que des musiciens qui enregistrent dans des home studios. Et ça, ça fait perdre cet ensemble de musiciens qui se réunissent et qui amènent chacun le meilleur d'eux-mêmes. Il fallait être meilleur que son voisin.
On arrive maintenant à un nouveau type de métier, un nouveau type de musicien. Ce sont plutôt des petites cellules, des familles de musiciens qui travaillent. Je connais un peu un groupe autour de M de Chedid, et puis là, 2-3 copains comme ça. Il y en a un qui est guitariste, ils jouent les uns pour les autres, ils produisent les uns pour les autres, et c'est des bandes.
Aujourd'hui, c'est l'entre-soi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des home studios, et on fait ça tout seul, ou avec 2 ou 3 personnes qu'on connaît bien, et ce qui peut inspirer de la nostalgie, c'est l'époque de ces grands studios, oui, qui étaient des espèces de scènes familiales aussi, c'est des scènes de théâtre.
Mais vous savez,
on pouvait en faire entrer 40, 60 musiciens.
On était tout un réseau qui se parlait, et était quand même soucieux de ce que devenait l'autre. Il y a une nostalgie de ce qu'était ce monde sur lequel vous m'interrogez.
Merci à Francis Daris-Curen, Denis Lable, Teddy Lasry, Slim Pezin, Jean-Claude Petit, Tony Russo. Et un merci particulier à Teddy Lasry. Prise de son, Clémence Bonfils, Bernard Quentin, Olivier Dupré. Mixage, Éric Boisset. 3, 4, c'est parti. Requin de studio en variété, un documentaire de Philippe Gimplevitch et Séverine Cassard.
Suite et fin demain de notre semaine de rediffusion de documentaires de la Fabrique de l'Histoire, nous vous proposerons demain un documentaire signé Delphine Saltel et Véronique Samouilov, diffusé en mars dernier sur Méni Grégoire, Allô Méni, Confidence sur les ondes. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr.